Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h30 à Paris, où que vous soyez sur la planète. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et si la France devait mener une guerre d'ampleur exceptionnelle, si la France devait mettre tous les moyens sur la table du jour au lendemain pour tenter de dominer l'adversaire, un adversaire aux puissances militaires majeures, la France, ou plutôt son armée, serait-elle prête à une guerre de haute intensité? Tel est le sujet de notre débat ce soir. Trois invités pour tenter d'y répondre. Tout d'abord, Xavier Tittelmann, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci à vous.
Vous êtes ancien aviateur militaire et aujourd'hui rédacteur en chef d'Air et Cosmos.com. Jérôme Pellistrandi, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Et puis à mes côtés, en studio, à Paris, Franck Alexandre, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Journaliste maison, vos sujets de prédilection, les questions de défense.
RFI.
Avant d'écouter les arguments de chacun, c'était en début de semaine à Paris, à la tribune de l'Assemblée nationale française, le ministre des Armées, au sujet d'un projet de loi à 413 milliards d'euros pour la programmation militaire de la France pour les prochaines années.
Cette loi de programmation militaire doit permettre non seulement de poursuivre une réparation d'un outil de défense, hélas abîmé dans le passé par des politiques parfois court-termistes et une forme de déni sur la réalité du monde, mais aussi de transformer nos forces sur des fonctions militaires concrètes avec des objectifs opérationnels précis.
Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, le texte qui fait l'objet de 1700 amendements prévoit, je vous le disais, de consacrer une enveloppe de 413 milliards d'euros aux armées entre 2024 et 2030. C'est une hausse de 30% comparée à la période précédente. Alors, premier tour de table, à commencer avec vous, Xavier Tittelmann. Comment qualifiez-vous aujourd'hui l'armée française si elle était amenée à partir en guerre ?
Elle a de grandes difficultés. Alors, ça dépend contre qui. Si c'est une armée conventionnelle équivalente, si c'était contre l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, je pense qu'on arriverait très largement à tenir le choc en cas d'attaque. Si c'est pour maintenir une situation de paix, comme on a pu le faire notamment en Afrique ou en Afghanistan, là, c'est une question d'occupation. Et là, on n'a pas la masse nécessaire pour pouvoir simplement tenir la ligne. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu des difficultés en Centrafrique ou au Mali, par exemple. Il n'y a pas eu de défaite militaire, mais la masse n'était pas là pour tenir le front. Et puis évidemment, si on était confronté à un acteur majeur comme la Russie avant l'invasion de l'Ukraine ou comme les États-Unis, là, évidemment, c'est très, très insuffisant.
Jérôme Pellistrandi, vous partagez ces arguments ?
Pas tout à fait, parce que, bon, en fait, quelle serait la nature du conflit sur lequel on serait engagé ? C'est-à-dire, si c'est un conflit majeur, effectivement, avec la Russie, Xavier a raison. Mais on a des capacités pour agir donc dans la durée avec une efficacité importante. Maintenant, il y a aussi le fait qu'un conflit majeur signifierait aussi un engagement en coalition avec nos alliés. C'est-à-dire que l'hypothèse d'un engagement où nous partirions seuls, par exemple en Afrique, bon, nous avons largement les moyens. Mais il est vrai que le monde évolue, l'environnement géopolitique évolue et que la loi de programmation militaire présentée par Sébastien Lecornu s'inscrit justement dans cette montée en gamme parce qu'effectivement, les menaces de demain exigent des efforts plus importants.
Et vous, Franck Alexandre, vous me disiez, c'est une armée à un coup, l'armée française.
Oui, la balle est puissante, effectivement, Adrien. Mais on ne peut pas recharger. Dit autrement, la France est prête pour la guerre, mais pas pour une guerre longue. Alors, évidemment, la question de la masse est centrale. L'armée française, en fait, elle sait tout faire dans tous les champs, dans tous les domaines. Mais c'est une armée dite bonsaï, échantillonnaire, avec très peu d'artillerie roquettes, des trous capacitaires bien connus comme les hélicoptères de manœuvre lourds, les Chinook. Voilà, donc raison pour laquelle la France, dans un conflit de haute intensité, aurait du mal à tenir la distance sans être épaulée par d'autres.
Vous disiez armée bonsaï, ça veut dire ?
Eh bien, c'est-à-dire que c'est une armée échantillonnaire avec très peu de capacité en artillerie, roquette, des avions de chasse, 130 de mémoire, sont alignés dans nos escadrons, très peu de navires de premier rang. Voilà.
Bonne dans de nombreux domaines, mais pas assez forcément de capacité.
C'est la masse
nécessaire.
Qui manque. C'est la masse. Et la guerre de haute intensité, c'est de la masse. La guerre, c'est de la logistique. Il faut pouvoir produire. Il faut, on l'a vu avec la guerre d'Ukraine, en fait. On s'aperçoit que la plupart des matériels, c'est du consommable. Les chars de combat, c'est du consommable. Nous, on en a 200. Voilà, pas plus. Donc, et on ne les fabrique plus. Donc, on serait très vite limité, effectivement, sur les champs de bataille.
Xavier Titel, cette augmentation conséquente du budget de l'armée pour l'horizon 2030 peut être une réponse à ces carences ?
Bah, c'est un début de réponse, mais c'est surtout une compensation aux années et aux décennies pendant lesquelles il n'y a pas eu assez. La situation d'aujourd'hui, c'est quand même une conséquence du fait qu'on n'est pas investi. Alors, néanmoins, on a quand même eu la chance d'avoir un pays qui a continué à développer ses technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut recommencer à reproduire. Alors, on a les bureaux de recherche, on a les technologies, mais on n'a plus forcément l'outil industriel pour se relancer. C'est pour ça qu'il faut 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois plus, pour pouvoir relancer une chaîne de production et revenir sur la masse qui était nécessaire. Parce que oui, ça c'est un constat qui est partagé par absolument tout le monde. On est très bon, on est très fort, mais avec 50 000 hommes à peine armés et des bateaux, etc., c'est vrai qu'on n'a pas la masse nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce budget va permettre de reprendre un petit peu de masse, parce que la technologie, heureusement, elle n'était pas encore perdue.
On n'a pas assez investi. Est-ce vraiment le cas, Jérôme Pélistrandi ?
Oui, tout à fait. Je prendrai une expression qui a fait fleurette pendant des décennies. Il fallait toucher les dividendes de la paix. Et donc, pendant 30 ans, oui, on a vraiment raboté sur le budget des défenses, qui était en quelque sorte la variable budgétaire. Et donc, on a sacrifié la masse avec le choix de l'armée professionnelle, mais qui se justifiait. Mais on en a profité aussi pour réduire dans de très nombreuses quantités. Et il faut reconnaître aux chefs militaires qui nous ont précédés, qu'ils ont su conserver les compétences. Et ça, c'est un enjeu majeur, comme le disait très bien Xavier, c'est que ça nous permet de remonter en puissance. Mais la seule chose, c'est que vous ne fabriquez pas un canon César en l'espace de quelques jours, vous ne fabriquez pas un sous-marin en l'espace de quelques mois. Un sous-marin, par exemple, c'est un chantier qui va durer 10 ans entre la découpe de la première tôle et le moment où il sera admis au service actif. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de remontée qu'il faut impérativement poursuivre dans les années à venir.
L'augmentation du budget fait-elle consensus ? On s'aperçoit qu'à l'Assemblée nationale, certains partis, notamment à droite, les Républicains ou encore le Rassemblement national, demandent encore plus en cas de force majeure.
Alors moi, je voudrais souligner que, à l'écoute des amendements, les Républicains sont conscients que l'effort qui est demandé à la nation, parce que 413 milliards d'euros, c'est conséquent. Maintenant, il y a des améliorations. Mais certains voudraient, par exemple, au RN, passer à 450 milliards d'euros. Pourquoi pas, mais on prend où ? Et c'est aussi l'un des enjeux de cette loi de programmation, c'est-à-dire qu'il faudra déjà, avec ces 413 milliards d'euros, les dépenser de manière extrêmement précise, parce que nous avons des comptes à rendre à nos concitoyens et on connaît le climat sociopolitique de ces derniers mois.
Et nous connaissons déjà, même si cette loi n'est pas encore votée, les principaux domaines qui seront concernés par cette augmentation
de
budget.
Cette LPM, elle sera en partie réparatrice, c'est-à-dire qu'on va changer par exemple les blindés médians de l'armée de terre avec l'arrivée des Serval, des Griffons, des Jaguars. Mais il faut quand même dire une chose, c'est qu'elle laisse un goût amer chez nombre de militaires, cette LPM. J'ai le bonheur de suivre, en tant qu'auditeur civil, de faire partie de la 30e promotion de l'école de guerre cette année. Et c'est vrai qu'à l'automne, les officiers de l'armée de terre pensaient qu'avec cette LPM qui se profilait, ils allaient enfin avoir les tubes d'artillerie, les chars qui manquaient au régiment français. Et on voit bien qu'en fait, au final, une grosse partie de ces crédits va être aspirée par des sauts technologiques en matière de renseignement dans le spatial, les fonds marins, la troisième dimension, l'électromagnétique. Il y a vraiment, si on veut rester dans la course et la souveraineté du renseignement, des sauts technologiques très chers à financer. C'est-à-dire que plus vous multipliez les capteurs, en fait, c'est très simple, hein, plus il vous faut des super ordinateurs, de l'intelligence artificielle, tout ça coûte, et effectivement, ça sera au détriment, on le voit bien, d'équipements. On ne passera pas à l'horizon 2030 au tour Rafale pour l'armée de l'air. Le nombre de griffons et de jaguars n'arrivera pas à son terme en 2030, mais ira jusqu'en 2035 pour avoir les équipements qui étaient prévus. On ne va pas renouveler le char Leclerc, le char de combat, dans l'immédiat. Donc oui, il y a une forme de frustration dans les armées, indéniablement.
C'est ce que vous partagez, Xavier Tittelmann ?
Oui, mais alors pas pour toutes les armées. C'est-à-dire que pour moi, alors il est très clair que maintenant, le grand ennemi, c'est la Russie. La Russie s'est réaffirmée comme une puissance impérialiste qui a une volonté agressive dans plein de zones. Mais l'armée de terre russe est tellement amputée que pendant les, je ne sais pas, 15 prochaines années, elle ne représentera plus aucun risque. Par contre, la Russie continuera à représenter une menace dans le domaine naval et dans le domaine aérien. Donc, il y a très clairement une priorisation du budget de la LPM qui s'oriente plutôt au profit de l'armée de l'air et au profit de la marine, parce que c'est eux qui sont au contact potentiel avec une force, avec la force de projection si on doit aller à Tahiti pour soutenir nos alliés contre la Chine. Donc, il y a finalement l'armée de terre qui passe un petit peu en second plan, alors que quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, effectivement, c'est plutôt elle qui brille. Et puis, le deuxième élément, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de matériel qui est en train d'être fourni à l'Ukraine, et tant mieux, parce qu'ils brillent, parce qu'ils montrent leur performance, je pense par exemple au César. Et c'est vrai qu'entre le rachat des équipements qu'on a pu fournir à l'Ukraine et puis la montée en puissance qui est nécessaire, c'est vrai que ça prolonge d'autant l'arrivée à la masse qu'on attendait.
La France a-t-elle donné trop d'armement à l'Ukraine? Et on essaie à présent de se renflouer, Jérôme Pellistrandi.
Bon, je pense que nous avons donné à l'Ukraine d'abord ce dont l'Ukraine avait besoin, et qu'on le voit, dire, on est maintenant dans le 16e mois de guerre, et lorsque l'on voit l'attitude de Moscou, il faut poursuivre l'effort. Et Xavier le dit très bien, en fait, il faut que l'aide européenne, dont la France, permette aux Ukrainiens d'obtenir un effet militaire suffisamment important dans les semaines ou mois à venir, pour obliger les Russes à discuter. Mais il est vrai que la problématique, c'est qu'effectivement, nous avons donné ce que nous pouvions donner, parce que, eh bien, dans certains domaines, nos capacités sont limitées, et avec un point qui est quand même essentiel à voir, c'est que pour nos partenaires européens, en quelque sorte, leur front principal, je prends par exemple le cas de la Pologne, c'est la Russie. Pour nous, nous devons simultanément pouvoir aider les Ukrainiens, mais nous avons des forces déployées en Roumanie, en Estonie, mais encore au Sahel, en océan Indien, et donc nous avons cette obligation d'être en quelque sorte multi-efforts, et donc nous ne pouvons pas uniquement consacrer tous nos moyens à un seul théâtre qui serait celui de l'Ukraine.
L'armée ukrainienne, hein, qui consomme plus de 5000 obus par jour, avec ce triste exemple aux portes de nos frontières, on se rend compte que par exemple la production franco-italienne sur une année permettrait seulement à ces armées de tenir 18 jours. Franck Alexandre, est-ce que là on se rend compte, si j'ose dire, grâce à la guerre en Ukraine, de nos carences?
Oui, Nexter produit actuellement, on va parler des obus de 155 mm, hein, c'est l'obus d'artillerie, ceux des Césars. Nexter produit de mémoire 60 000 obus par an. Il prévoit de doubler ce chiffre d'ici un an, 18 mois. Il faut bien avoir conscience que pendant la guerre froide, on produisait 400 000 obus par an. On en a livré, l'Union européenne sur un an a livré 350 000 obus à l'Ukraine et prévoit d'en livrer 1 million d'ici un an. Effectivement, l'outil industriel, alors on n'est pas seul, il n'y a pas que Nexter qui fabrique des obus de 155, hein, il y a Rheinmetall en Allemagne, il y en a d'autres. Mais effectivement, l'outil industriel en Europe est loin d'être adapté aux exigences de ce conflit, et il est très difficile de se remettre à niveau quand on pense que pendant le 14-18, par exemple, Français et Allemands sont échangés 1,4 milliard de buts en 4 ans. C'est vertigineux. Nous, par exemple, les obus de chez Nexstar, quand on va à la chapelle Saint-Ursin, à côté de Bourges, où ils fabriquent ces obus de 155 mm, on voit cet outil industriel qui va être doublé. Il y a une deuxième chaîne de ceinturage d'obus qui va être mise en place très bientôt. Mais il y a aussi une partie très artisanale, par exemple les pains d'explosifs qui sont à l'intérieur, c'est de l'explosif compressé qu'on compresse dans un tube de canon du cuirassé Richelieu de 1939. On a récupéré un canon, on l'a coupé en deux, on l'a enterré dans le sol et on met 2000 bars de pression et on comprime de l'explosif qu'on divise en petits pains qu'on met dans chaque obus, et ce qui permet à l'obus de bien claquer. Alors c'est voilà, certainement les plus beaux obus produits sur la planète, mais il y a une part d'artisanat dans cela, et on en produit ces explosifs 100 kilos par jour. Voilà, pas plus.
Alors on se souvient bien que cette Europe de la défense s'est construite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur une idée qui était la paix, et le plus jamais ça. On pensait que la guerre ne reviendrait pas. Xavier Tittelmann, est-ce qu'on allait un peu trop loin dans la réduction des stocks de munitions aujourd'hui ?
On a même arrêté d'en produire dans certains domaines. On ne fait plus de bombes lisses, on ne fait plus d'armes de petit calibre, parce qu'on s'est dit, c'est pas grave, c'est facile, on pourra toujours en trouver sur le marché. Et puis c'est exactement la même erreur qu'on a fait pour les masques chirurgicaux. Donc cette erreur stratégique de ne pas pouvoir être souverain dans un certain nombre de domaines qui sont pourtant hautement régaliens, évidemment que c'est une erreur stratégique, évidemment qu'il faut revenir en arrière, et j'espère que ça va se faire beaucoup plus rapidement, et qu'on sera capable d'assumer de maintenir sur la France, sur l'État français, sur le sol, une préférence pour tous ces équipements. Et moi j'ajoute un point, si on ne sait pas le faire au niveau national, il faut à minima qu'il y ait une préférence communautaire. Et moi, je voudrais vraiment qu'on s'éloigne clairement des États-Unis, parce qu'il faut arrêter de subir l'impérialisme d'autres pays. La France, l'Europe, la France si possible, l'Europe si nécessaire, puis on s'arrête là.
Vous écoutez RFI en direct de Paris.
Le débat du jour sur RFI, Adrien Delgrange.
Avec trois invités, Xavier Tittelmann, ancien aviateur militaire, aujourd'hui rédacteur en chef d'aircosmos.com, Jérôme Pellistrandi, directeur en chef de la revue Défense Nationale, et puis Franck Alexandre, journaliste à RFI, sur les questions de défense en cas de guerre de haute intensité. La France seule peut-elle s'en sortir, ou alors a-t-elle obligatoirement besoin de ses alliés de l'OTAN, Jérôme Pellistrandi?
Alors, là aussi, il faut être précis, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais la France est une puissance nucléaire. Donc, la probabilité, en quelque sorte, d'être confronté seul à un conflit majeur est assez peu probable. Hein. On serait dans une coalition. Maintenant, il est vrai que en quelque sorte, le tout nucléaire, la dissuasion nucléaire qui serait la réponse à tout, et puis les forces conventionnelles, il faut avoir cette panoplie qui permet de réagir. Parce qu'on peut avoir un conflit de haute intensité qui ne soit pas forcément en Europe. On peut être engagé dans quelque chose en Méditerranée, dans l'Indo-Pacifique, et vraisemblablement, on serait dans une coalition. Alors ce qui est important, c'est par contre de pouvoir peser dans la coalition, c'est-à-dire que ne pas être sur un strapontin et aux ordres. Xavier Tittelmann parlait des États-Unis, il faut que l'on ait les capacités pour, en quelque sorte, si on s'engage, pouvoir peser dans le processus décisionnel, pouvoir être un acteur de premier plan et ne pas, en quelque sorte, subir, comme ça peut être par exemple le cas lorsque nous étions en Afghanistan, nous n'étions pas un des acteurs les plus importants, donc on était un peu aux ordres. Aujourd'hui, l'objectif, et on le voit dans la loi de programmation militaire, c'est de pouvoir peser, y compris en coalition, dans un conflit de haute intensité.
Pourquoi, Xavier Tittelmann, vous préconisiez que la France prenne ses distances des Américains en cas de guerre de haute intensité ?
Pas forcément. Évidemment, en cas de guerre de haute intensité, on prendra les alliés du côté où ils sont. Aujourd'hui, on s'inscrit dans le cadre de l'OTAN. Et moi, mon objectif, en réalité, c'est d'avoir une souveraineté nationale, si ce n'est européenne, mais en tout cas qu'on soit capable d'agir totalement de manière indépendante vis-à-vis des États-Unis. Oui, globalement, on restera les alliés des États-Unis. Globalement, on choisira nos alliances avec eux, mais je voudrais plus qu'on soit systématiquement associé aux errances des États-Unis quand ils vont, par exemple, envahir l'Irak, des choses qui impliquent pas du tout l'OTAN. Mais par exemple, si on regarde même la Libye, comme on avait une capacité à gérer la situation tout seul, c'est finalement l'OTAN qui a dû en partie gérer la communauté des pays qui participaient à ces opérations. Et finalement, être capable d'avoir toute la capacité européenne d'agir seul en coalition, évidemment, et ben ça, ce serait mon objectif, on va dire, à 2050. J'aspire surtout pas à sortir de l'OTAN après-demain, surtout dans le contexte actuel qui, très clairement, protège un certain nombre de pays. Si on n'avait pas l'OTAN aujourd'hui, les pays baltes auraient subi le même sort que l'Ukraine. Et ça, la Russie le dit, le revendique, elle aurait attaqué la Pologne également. Donc il faut absolument être clair, il faut se donner un objectif à très long terme de souveraineté pour pouvoir, en tout cas, considérer qu'on est un pays qui est capable, une zone qui est capable d'agir totalement souverainement.
Franck Alexandre.
Oui, le problème n'est pas nouveau, Adrien. Durant la guerre froide, même avec une masse plus importante, l'armée française n'était pas conçue pour résister à une invasion soviétique. La mission de la France, c'était de bloquer l'URSS 48 heures, le temps pour les renforts américains d'arriver. Et encore, on nous avait confié un box d'à peu près 200 km de ligne de front. Donc, on voit bien. Et d'ailleurs, Thierry Burkhard, lors de le 25 février dernier, sur notre antenne, lorsqu'il a témoigné pour la première fois après l'invasion russe en Ukraine, il a bien dit « la France n'est pas seule, nous serons toujours en coalition ». Aujourd'hui, la France a l'ambition, l'armée de terre a l'ambition de commander une division en coalition au niveau européen, au niveau de l'OTAN. Voilà, ça risque de tirailler un peu quand même, hein, puisque sur les chiffres des armées de terre, l'une des premières forces terrestres en Europe, c'est peut-être aujourd'hui la Pologne. Donc, accepteront-ils d'être sous commandement français? Je ne sais pas, je pose la question.
Quelqu'un a la réponse, Xavier Tittelmann, Jérôme
Pellistrandi? Non, très clairement. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait dominer forcément un pays? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un organisme tournant? Et puis je ne vois pas pourquoi est-ce que les Belges n'auraient pas le droit un jour d'être aussi à la tête. Tout comme il y a en Europe une présidence tournante, on pourrait imaginer un état-major tournant. Aujourd'hui, on a un état-major intégré dans l'OTAN qui fait que tout le monde est plus ou moins représenté. On pourrait imaginer exactement le même type de système avec pourquoi pas des spécialisations, les Bulgares qui font des troupes de montagne, la France qui s'occupe, bon, qui peut faire à peu près tout. Mais finalement, on pourrait aussi imaginer des spécialisations pour que chacun puisse être leader dans un domaine.
Reste que certains de nos alliés font plus confiance aux États-Unis qu'à d'autres.
Jérôme Pellistrandi sur ce point-là?
Oui, en fait, c'est l'un des enjeux de demain. Et en fait, on se rend bien compte que si on veut pouvoir avoir une autonomie stratégique européenne, en fait, il faut davantage peser dans l'OTAN. Et c'est un petit peu paradoxal, mais je pense que nous ne pesons pas assez dans le processus décisionnel de l'OTAN pour un tas de raisons anciennes, malgré l'investissement que nous faisons. Et donc, si on veut pouvoir agir, donc en quelque sorte, ben, on doit être plus présent dans les structures de commandement de l'OTAN. Et c'est une des évolutions vers lesquelles, enfin en tout cas que le ministre Sébastien Lecornu souhaite donc aboutir très vite.
Vous rappeliez, Jérôme Pellistrandi, que la France est une puissance nucléaire, puissance aussi dissuasive. Hein. L'idée, c'est de ne pas faire la guerre avant la guerre.
Oui, alors ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et on l'a vu depuis le début de la guerre en Ukraine. La question de la dissuasion, c'est un club très restreint. Et dans le cas de la guerre en Ukraine, c'est un club 3 plus 1. Le 1 étant Moscou, et de l'autre côté, c'est Londres, Washington et Paris. Et on voit que cette dimension-là, eh bien, alors, elle est moins perçue par nos partenaires européens. Pour nos partenaires allemands ou polonais, la dissuasion, pour eux, c'est les États-Unis. Mais on voit bien que cette dissuasion nucléaire pour laquelle nous investissons beaucoup nous donne une marge de manœuvre finalement dépasse en quelque sorte ce qu'est la France. C'est-à-dire que nous, c'est 1% de la population mondiale, mais par notre puissance nucléaire, là on s'inscrit dans la tradition gaullienne de la Ve République, nous pouvons peser dans le processus décisionnel, et donc on n'est pas au même niveau que l'Allemagne, la Pologne ou l'Italie. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale.
Le nucléaire, un clé de voûte de notre défense, Xavier Tittelmann. Un chiffre à environ 13% de la prochaine loi de programmation militaire, soit environ 54 milliards d'euros, seront ainsi consacrés à l'entretien, l'amélioration des armes atomiques dans notre pays.
Ben oui, mais c'est finalement quelque chose, c'est peut-être le seul domaine dans lequel il y a un consensus national depuis des décennies et des décennies. On a la certitude qu'on aura une souveraineté totale dans le domaine de la dissuasion nucléaire, au moins jusqu'en 2080, puisque je vous rappelle qu'en février dernier, on a posé la quille, enfin on a commencé à travailler sur les premières pièces du futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui ne sortira pourtant qu'après 2035, donc c'est, encore une fois, on s'inscrit dans le temps très long. Et dans tous les cas, ça permet de sanctuariser le territoire national. On sait qu'on ne subira pas d'attaques militaires, qu'elles soient de quelque matière qu'elles puissent être, conventionnelles sur le territoire national. Et ça, évidemment, c'est une certitude qui empêche toute attaque d'où qu'elle puisse venir.
La bombe nucléaire hein, demeure l'un des piliers centraux hein, de la stratégie de la défense de la France depuis... le général de Gaulle.
Oui, et qui s'étend, un parapluie qui s'étend à l'Europe également. Le président de la République l'a rappelé lors de son discours de Toulon à l'automne dernier. Alors, cette composante, il faut voir une chose, c'est que nous n'avons plus les armes nucléaires tactiques. Donc, nous, c'est un peu l'apocalypse ou rien. Et effectivement, ça peut être un manque dans la dialectique du langage nucléaire. C'est une question ouverte, on peut en débattre maintenant.
Vous avez un avis sur la question, nos deux invités, Xavier Tittelmann?
Oui, alors on a quand même des armes qui sont stratégiques, c'est-à-dire qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, c'est à peu près 1000 fois Hiroshima. 1000 fois, pour un seul sous-marin, on en a 4. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les armes très stratégiques, qui sont des sortes de missiles quasiment hypersoniques, qui sont lancés par l'avion de chasse, le Rafale, qui demain vont être remplacés par une nouvelle génération. Et c'est vrai qu'en dessous de ça, on n'a pas grand-chose, mais objectivement, quiconque nous attaquerait a la menace d'avoir déjà le prêt stratégique. Ce n'est pas le sous-marin, ce n'est pas 1000 fois Hiroshima, mais c'est déjà quand même très impressionnant. Je pense que c'est suffisant pour éviter toute menace. Et à partir du moment où un pays oserait utiliser l'arme nucléaire contre nous, il sait qu'il se prendra un échelon qui est largement supérieur et inarrêtable avec les futures évolutions du Rafale au standard F5, avec ses futurs missiles hypersoniques. Donc finalement, je ne sais pas s'il est nécessaire de relancer la production, parce que là, pour le coup, on part sur des investissements qui sont très chers. De mon point de vue, à partir du moment où on peut raser notre ennemi une fois, qu'on puisse le faire une fois ou 50 fois, parce qu'on aurait relancé la production sur des armes de plus petit calibre tactique, à ce moment-là, ce serait un élément supplémentaire. Mais je pense qu'il faudrait mettre cet argent dans d'autres armements conventionnels qui manquent beaucoup plus.
Vous confirmez, Jérôme Pellistrandi?
Alors, je pense que le principe de la dissuasion, donc autour des deux composantes que sont les forces aériennes stratégiques avec les Rafales et les missiles SNPA et les SNLE, c'est une manœuvre globale et qui s'appuierait sur la gestion d'une crise, c'est-à-dire qu'on n'est pas un peu comme les films un peu de science-fiction où tout d'un coup on aurait des missiles nucléaires venant d'une puissance hostile qui tomberait sur la métropole. On serait dans une gradation qui obligerait à ce moment-là une montée en puissance. Et c'est là où l'outil militaire se doit d'être complet. On aurait une crise majeure, par exemple, la décision d'envoyer le groupe aéronaval autour du porte-avions Charles de Gaulle, c'est une décision qui est d'ordre politique et on exerce une pression extrêmement forte envers l'adversaire potentiel. Donc il faut avoir cette gamme qui est dans le secteur conventionnel, mais qui permet effectivement de dire à l'adversaire, donc dans le cas d'un conflit de haute intensité, attention, il y a des seuils à ne pas franchir.
Et pour conclure, à vous écouter Xavier Tittelmann, la France, puissance nucléaire, pourrait donc mener seule une guerre de haute intensité?
Alors, si on ne compte pas le nucléaire, ce serait très difficile de le faire aujourd'hui. Dans l'état de décrépitude dans lequel se trouve la Russie, peut-être qu'on serait capable de tenir, par exemple, 200 km de front. Si on avait du soutien, notamment en termes d'obus, en termes de consommables. Et là, aujourd'hui, tout à l'heure, vous disiez, les chars, c'est du consommable. C'est vrai que les Russes ont perdu plus de 1600 chars depuis le début du conflit. Mais les chars russes ne sont pas les chars Leclerc. Le char Leclerc a une capacité très très largement supérieur, il gagne des compétitions. Par exemple, il y a 2-3 ans, il avait gagné la compétition européenne des meilleurs chars. Et finalement, parfois, on peut se permettre d'avoir un peu moins de matériel parce qu'il est largement de meilleure qualité. Et on le voit en termes d'obus. Il faut 20 fois plus d'obus non guidés par rapport à un obus qui est tiré. Donc, quand on a moins de capacité et le fait qu'on puisse avoir une meilleure qualité, parfois, ça le compense. Ce n'est pas tout d'avoir une meilleure qualité. Il faut aussi de la masse. On est en train de la retrouver. C'est ça qui est important.
Et pour conclure, Franck Alexandre, une guerre d'ampleur exceptionnelle, la France est-elle prête ?
Ce qui est sûr, c'est que les armées françaises sont véritablement aguerries avec les Britanniques. Ce sont les deux nations capables d'aligner des régiments remarquables et qui savent à peu près tout faire. En Europe, c'est unique.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat en direct de Paris. Xavier Tittelmann, Jérôme Pellistrandi, Franck Alexandre. En ce moment, on débat de cette loi de programmation militaire pour les prochaines années 2024-2030 avec un budget à 413 milliards d'euros. Emmanuel Macron espère qu'elle sera votée pour le 14 juillet prochain. Ainsi se referme cette émission. Réalisation ce soir Laurent Philippot, documentation Charles Barrier, coordination Florence Ponce, rédaction en chef Patrick Adam. Dans quelques secondes, à l'écoute de la Radio du Monde, un nouveau journal d'actualité internationale.